Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Et bonjour à tous, c'est Marine au micro de Cinérama. Pour la deuxième semaine consécutive, eh bien nous sommes en duo dans Cinérama. Bonjour Manu.
Bonjour Marine.
Alors aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ?
Eh bien de Vers l'autre rive de Kiyoshi Kurosawa. Et puis je dirais un petit mot d'un remake d'un film de Mario Bava, Enragé. Le titre original c'était Chien enragé. Et puis je finirai par ma chronique sur le polar avec le troisième film de Stanley Kubrick, Ultime Razzia, The Killing en VO.
Très bien, alors Vincent donc, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui nous a quand même légué une petite interview et pas des moindres puisqu'il s'agit de l'interview de Jean-Pierre Mocky, alors réalisateur, acteur, voilà, l'homme qui fait du cinéma depuis on ne sait plus trop combien de temps en fait, il semble avoir 150 ans, il a toujours été là, donc il a plein de choses à dire, il est toujours aussi truculent, vous allez pouvoir découvrir ça tout à l'heure. Et moi pour ma part je vais vous parler de deux films français réalisés par des femmes d'ailleurs, il s'agit de Maryland de Alice Vinocourt et de Un début prometteur. Réalisé par Emma Lucchini. Et on commence tout de suite avec toi, Manu, à Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, ce qui frappe, dès les premières images de Vers l'autre rive, c'est bien avec quelle grâce et simplicité Kiyoshi Kurosawa introduit son récit sans pathos ni explication pesante. Yuzuke, après 3 ans d'absence, revient auprès de Mizuki, sauf qu'il est mort. Cette donnée est amenée avec une évidence qui caractérise les grands films. Les fantômes peuplent le cinéma du japonais, hein, depuis ses films très sombres à la fin des années 90, début 2000, comme Cure, Cairo ou Prémonition. Pardon, je me suis trompé, c'était Rétribution. Jusqu'ici, ces spectres ont toujours été une des figures inquiétantes, des enveloppes floues et anxiogènes contaminant le monde des vivants pour les confronter à leur mal-être ou à un dysfonctionnement de la société. Alors, Yuzuke est une présence fantomatique réintégrant son univers domestique comme si de rien n'était, comme s'il revenait d'un voyage après une longue pause. Et Mizuki accueille son arrivée avec une émotion rentrée, sans être ni terrifiée ni surprise. Alors détail amusant, elle lui demande d'enlever ses chaussures à l'entrée. Cette manière d'intégrer l'élément surnaturel dans un environnement rationnel, organisé selon des règles et des conventions strictes, est très touchante et surtout constitue le point de départ d'une des plus belles histoires d'amour vues sur un écran depuis au moins le Titanic. Non, je plaisante.
Au moins ?
Au moins, oui. Alors pour commencer, on va écouter un extrait de la bande originale du film. Yuzuke embarque Mizuki dans un voyage à rebours à la rencontre des gens qu'il a croisés durant ces 3 dernières années. Mizuki, à travers ce périple initiatique, va découvrir un homme qu'elle ne connaissait pas, lui découvrir des talents hors normes, une sensibilité et une culture inédite. Alors, on ne connaît jamais vraiment la personne avec qui l'on vit. Le cinéma américain, c'est en effet d'ailleurs une spécialité, mais d'une manière souvent négative. Ici, le point de vue est solaire, rempli d'un optimisme inédit chez le cinéaste, tempéré par une mélancolie tout en non-dit. Alors, le dentiste terne et infidèle avec qui elle a vécu toutes ces années est en fait un homme bon. Il ne s'agit pas de rachat, mais d'autre chose de plus intime, d'enfoui en chacun. Alors les morts rencontrent les vivants, mais aussi d'autres morts qui parfois ignorent qu'ils le sont. Kurosawa se refuse à toute explication, pensée prémâchée à coups de formules et de lourdeurs symboliques, pour nous immerger littéralement au cœur d'un récit onirique et poétique, point de rencontre entre les morts et les vivants. Alors Vers l'autre rive est l'œuvre d'un artiste en paix avec lui-même, réconcilié avec ses propres démons et angoisses. Alors Kurosawa n'a pas besoin d'effets grossiers pour basculer dans le fantastique, tout son cinéma se glisse naturellement dans le genre sans que l'on y prête une quelconque attention. L'élément surnaturel contamine sans arrêt le réel, le déforme et l'étoffe d'un apaisement inattendu. Vers l'autre rive bouleverse pour une raison secrète. Il touche du doigt ce qui nous anime, nous vivants, lorsqu'on perd un être cher. Alors non pas agiter les vieilles idées sur le pardon ou pouvoir dire une dernière fois au revoir, mais là tout simplement recommencer un bout d'histoire ensemble, accepter les erreurs de l'autre, découvrir aussi ce que nous ignorions sur sa personnalité. Refaire un peu de chemin à deux dans un temps déterminé mais précieux pour accepter enfin l'impossible deuil, puisque c'est vraiment le sujet secret du film. Alors non dénué d'humour, voir le cours magistral très drôle et pédagogique sur la théorie de la relativité et traversé par une émotion constante vers l'autre rive est un magnifique mélodrame insensé et cosmique qui parvient à remuer la tête et le cœur, l'intelligence au service de l'émotion et vice-versa. Alors Kurosawa invente une sorte de cinéma théorique sensitif à fleur de peau dans lequel il déploie ses thèmes de prédilection avec une simplicité confondante. L'irradiante beauté du film en fait est liée à sa mise en scène épurée qui déploie des trésors d'ingéniosité à travers une maîtrise absolue de l'espace et du temps. Alors on retrouve, comme d'habitude, son goût du cadre dans le cadre, cette façon si particulière d'inscrire les personnages dans un environnement donné et d'arriver à faire vivre cet environnement par de petites touches, détails insignifiants. Le découpage filmique précis crée d'ailleurs une fluidité entre les apparitions et disparitions, les connexions entre les vivants et les morts. Et puis, il y a cette lumière qui respecte les rythmes naturels. Elle inonde le cadre et crée des émotions inédites à elle seule. Alors, quand au sein d'un même plan, les nuances de couleurs changent, les reflets varient, un léger frisson parcourt votre corps sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Alors, on appelle ça la grâce ou le génie, je ne sais pas. Alors... J'exagère un peu. Hein. Le jury à Cannes, en tout cas, ne s'y est pas trompé puisque le film est reparti avec le prix de la mise en scène, mais dans la section Un certain regard. Mais sa place était vraiment, à mon sens, en compétition. Hein. Dans la sélection officielle, vu, j'ai pas vu tous les films, la médiocrité un peu de cette sélection. Hein. Donc peu importe au fond, hein, Vers l'autre rive est un film, un pur film romantique, un vrai de vrai qui s'assume pleinement, mélancolique et lumineux, doublé d'une réflexion pétrie de tendresse et de tristesse sur le couple, l'un des plus vieux sujets du monde, mais sur lequel il y a tellement à dire. Et puis le couple Eri Fukatsu et Tadanobu Asano, parfaits tous les deux, forment un couple unique, charnel et mystérieux qui risque de rester longtemps dans les annales. Non, dans nos mémoires, parce que dans les annales,
c'est un peu trivial.
J'aime pas trop ce terme.
Merci Manu. Voilà. Eh bien, on va encore parler de couple, mais on quitte le fantastique pour la comédie maintenant. C'est toujours Cinérama et on poursuit avec un début prometteur.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Martin, interprété par Manu Payet, est un écrivain à succès, désabusé, alcoolique et drogué, évidemment, déçu par la vie et par l'amour. Il sort de cure sans davantage être décidé à aller mieux et se réfugie chez son père. Son jeune frère est encore lycéen, idéaliste, forcément assez frétillant de la braguette. Ils tombent amoureux tous les deux jours et s'est mis dernièrement en tête d'aider Mathilde, une jeune femme de 35 ans, lumineuse, insaisissable, qui vit de poker et de combats de chiens truqués. Bien évidemment, Martin n'est lui-même pas insensible à son charme, mais il va tout faire pour dégoûter son frère de cette idylle naissante. I touch your lips and all at once the
sparks go flying. Those devils. Bon, alors la cure, c'était comment ?
Mon frère, il boit trop, non, tu trouves pas ?
Je sais pas, c'est Martin, quoi. Oh, I see the
danger still. Ouais, bah justement, là, il vient juste de rentrer de Talasso, là. Mais oui, ça lui a fait du bien. Il est devant moi, là. Il est comme neuf.
Je suis amoureux.
Tu veux que je te dise ce qui va se passer ? Tu vas la revoir, d'accord ? Là, tu vas penser que t'es sauvé, tu vas casser les murs, tellement t'auras l'impression d'être vivant.
Bonjour.
Puis les jours vont passer. Et le truc marchera de moins en moins bien. Et toi, tu te sentiras de moins en moins vivant. Mais tu vas voir, c'est vachement bien foutu ce truc, parce que tu sauras exactement quand passer à quelqu'un d'autre.
Il marche le regard fier, mais oh...
Un début prometteur est le premier film de Emma Lucchini, la fille de Fabrice Lucchini, voilà, comme vous l'aurez compris, qui interprète d'ailleurs dans le film le père de Manu Payet. Manu Payet qui, pour le rôle, assume enfin ses 40 ans. Gros ventre à bière, cheveux grisonnants, barbe foisonnante, le comédien n'a pas vraiment cherché à ressembler à son modèle Nicolas Ray. Oui, car Un début prometteur est l'adaptation du roman éponyme, roman qui décrit les turpitudes donc de l'écrivain Nicolas Ray. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, c'était un écrivain encensé il y a quelques années, grand ami de Frédéric Becbédé, dont il partageait la passion pour le champagne, la cocaïne et les clubs échangistes, ainsi qu'un certain amour de l'état dépressif. Alors, bien que Manu Payet possède une palette de talents suffisante pour être crédible en passant du cynisme à la mélancolie, son jeu n'est pas dépourvu quand même de certaines lourdeurs, à l'image de sa démarche traînante, tout ventre dehors, censé donner corps à son personnage de neurasthénique. N'est pas Marion Cotillard qui veut jouer la dépression est toujours une composition délicate qui verse facilement dans la caricature. Comme à peu près tous les acteurs comiques français avant lui, Manu Payet tente de nous faire son Ciao Pantin et c'est une demi-réussite. Car si le film est porteur d'une vraie révélation, c'est Virle Beatons, là qu'on a entendu chanter, sa partenaire féminine qui l'éclipse totalement. Celle qui incarnait Alabama Monroe, il y a 4 ans, n'avait pas fait grand-chose depuis. Elle vole ici littéralement la vedette aux autres acteurs du film. Il faut dire que la plupart du temps, les films souffrent cruellement de personnages féminins dans la trentaine. Les archétypes de femmes fatales sont soit des jeunes filles ou des femmes mûres. Entre les deux, pas grand-chose. La femme de 30 ans est la plupart du temps représentée comme une célibataire pleurnichard de type Bridget Jones ou alors comme une nana carriériste qui finit forcément seule. Et on a enfin, ici, un personnage un peu nouveau, de femme indépendante mais pas névrosée, mystérieuse mais pas sinistre, qui s'occupe des hommes plus qu'ils ne s'occupent d'elle, qui est légère sans être creuse, qui leur tourne la tête sans les rendre malheureux. Et non seulement le film est bien fait la part belle au trentenaire, mais en plus, c'est le deuxième film du mois que je vois qui est tourné en Picardie. En Picardie. Alors, est-ce que cela voudrait dire qu'on va assister à un retour en force de cette région mal aimée? Vraiment, je ne sais pas. Peut-être que c'est une nouvelle Côte d'Azur. Enfin, bon, voilà. Peut-être que tous les espoirs sont permis.
Vas-y,
pourquoi pas?
Va faire un tour en Picardie.
Je viens de là-bas, en fait.
Ah, d'accord. C'est pour ça.
C'est une région chère à mon cœur. Voilà. Donc, ça me fait quand même du bien de voir qu'elle est un peu remise au goût du jour. Bon, voilà. Et donc, pour conclure, eh bien, le gros problème du film, hein, c'est qu'un début prometteur porte un peu trop bien son nom, car lorsque le film se termine, il semble qu'il n'a en fait jamais commencé, et que tout cela n'était qu'une sympathique introduction. Alors, le film est quand même pas trop mal, disons qu'il a au moins le mérite de nous faire apprendre une nouvelle recette de cocktail, celle que Martin boit environ toutes les 5 minutes dans le film. Je vous la donne, parce que je suis une fille sympa. Alors, vous mettez un doigt de sucre de canne, un peu de vodka, autant de whisky, et vous terminez ensuite de remplir le verre avec du champagne, de préférence du Cristal Roederer. Et voilà. Et santé. Donc, un début prometteur. Un début prometteur, c'est de cinéma cette semaine. Voilà, et c'est une demi-réussite. C'est toujours Cinérama.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Et on poursuit avec Enragé, Manu.
Alors la bande-annonce est amusante puisqu'elle insiste sur le fait qu'Enragé est le remake de Chien Enragé, Dixit, la bande-annonce, de film culte de Mario Bava. Ce qui n'évoquera rien à 90% des gens venus se divertir avec un polar français de plus. Alors dans la lignée des productions Besson, si l'on s'en tient au sujet, au casting et à l'affiche. Alors les auteurs du scénario, dont Yannick Dahan, ex-journaliste à Mad Movies et amateur de bis, connaît de toute évidence le film de Bava, et la première bonne surprise de ce premier long métrage est de ne pas s'écarter de l'histoire originale. Après un hold-up qui a tourné au carnage, des malfrats prennent en otage une jeune femme et un homme qui doit conduire sa petite fille à l'hôpital pour lui greffer un rein. Et c'est parti pour un périple sanglant en voiture à travers le Canada. Alors j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était dû que ça se passait au Canada, avec au milieu du film une séquence assez hallucinante où les autochtones font la fête de l'ours. Et je ne connaissais pas cette fête, je ne comprenais pas bien.
Quelle bande de barbares.
Oui, ce sont des barbares. Alors on écoute la bande-annonce.
Les gens vous prennent pour un tueur? Vous en êtes pas un.
Pourquoi vous faites ça? Hein, pourquoi?
Ça intéresse qui, franchement? Pourquoi?
Vous me connaissez pas.
Vous voyez bien, les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. C'est la règle.
Voilà pour le pitch, on en dira guère plus, même si l'affiche indique bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être, ce que dit bien Lambert Wilson, confirme Lambert Wilson, le brave père de famille lorsqu'il s'adresse à un des gangsters. Alors de ce point de vue, les scénaristes ont la main lourde, et avec un peu de jugeote, sans anticiper le twist final, le spectateur se dit qu'il y a anguille sous roche. Alors que toute la puissance de Chien Enragé venait de cette incroyable pirouette narrative, impossible à anticiper, provoquant un retournement de personnalité d'un des personnages principaux lors d'un épilogue aussi désespéré que traumatisant. Alors malgré des problèmes évidents d'écriture et des personnages dessinés à gros traits, sans doute pour attirer un public jeune à peu de frais, Enragé séduit in extremis grâce à sa mise en scène stylisée et énergique, sans avoir recours à un montage cut ou à un filmage parkinsonien. Alors Eric Anenzo, dont c'est le premier film, rend un hommage sincère à Mario Bava et réussit malgré tout un petit thriller tendu et efficace, magnifiquement photographié avec de fortes teintes rouges. Lambert Wilson et la toujours aussi belle Virginie Ledoyen tirent agréablement leur épingle du jeu au milieu de comédiens quand même sans relief, peu aidés par des dialogues assez risibles, ce qui est un peu dommage en fait, parce que ça aurait pu être meilleur, je pense, s'ils avaient moins insisté sur ce côté production un peu à la Besson. C'est vraiment ce qui est gênant dans le film. Sinon, ça reste un petit thriller efficace.
Et c'est toujours Cinérama.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors on va maintenant pouvoir écouter Jean-Pierre Mocky au micro de Vincent Pourageau, qui va nous parler de la façon dont les productions cinématographiques françaises ont évolué, sa façon de voir les choses un petit peu. Vous allez voir, image passée mot.
Vous êtes prêts?
Oui, je suis Jean-Pierre Mocky, un cinéaste.
Moteur!
Vous avez tourné en tant qu'acteur avec des grands réalisateurs. Vous-même, vous avez une filmographie conséquente où vous avez fait tourner un nombre incalculable d'acteurs et parmi les plus grands. Enfin, il y avait Michel Serrault, il y avait Bourville, il y avait tout cela. Vous, vous avez vu les transformations visiblement de la production cinématographique française.
Mais oui, mais c'est-à-dire que dans les années 46 où j'étais acteur jusqu'aux années 60, en fait, les jeunes réalisateurs n'existaient pas. C'était que des vétérans, des gens qui avaient débuté leur carrière en 1930, qui occupaient le haut du pavé. Et pour un jeune réalisateur, c'était très très difficile de rentrer dans le métier. C'était fermé, c'était rien que des vieux qui étaient là. Et jusqu'en 60, il y a eu une poussée de jeunes pour ce qu'on appelait la nouvelle vague. Jusqu'à cette époque-là, il était pratiquement impossible à un jeune de rentrer dans le circuit parce que c'était gardé en quelque sorte, c'était une chasse gardée. Et puis, les journalistes ont joué un grand rôle dans cette mutation entre l'ancienne vague et la nouvelle. Et si on les appelait la nouvelle vague, c'est que la plupart de ces nouveaux réalisateurs n'étaient pas dans le métier. C'était généralement des journalistes, des photographes, des gens comme ça, des acteurs. Et ils ont balancé en fait les vieux. Il y a eu une espèce de révolution culturelle qui a précédé la fausse révolution de 68. Donc, où des journalistes ont dit il y en a marre de voir toujours les mêmes films et tout ça, donc on va faire autre chose. Et ça a été l'avènement de Truffaut, Godard, moi-même et tous les autres, tous ceux qui ont participé à ce qu'on a appelé la nouvelle vague. Mais dans cette nouvelle vague, il y a eu deux tendances. Une tendance intellectuelle, qui était celle, si vous voulez, des journalistes férus de cinéma qui se sont institués metteurs en scène.
Pourquoi t'as l'air triste?
Parce que tu me parles avec tes mots, que moi je te regarde avec tes sentiments.
Et que toi on peut pas avoir de conversation. Jamais d'idées, toujours des sentiments.
Mais c'est pas vrai? Il y a des idées dans les sentiments.
Bon, on va essayer d'avoir une conversation sérieuse. Tu vas me dire ce que tu aimes, ce que tu as envie, et la même chose pour moi. Alors vas-y, commence.
Et puis il y avait des gens comme moi, Vadim, Robert Hossein, des gens comme ça, qui étaient quand même déjà dans le métier depuis 1946, donc qui n'étaient pas nouveaux dans le métier, et qui ont suivi, si vous voulez, cette espèce de d'éclatement d'envahissement des jeunes du cinéma par les jeunes. Donc il y a eu la nouvelle vague issue de tous ces journalistes et dans cette nouvelle vague s'est additionné tous les jeunes réalisateurs qui n'en faisaient pas partie, qui étaient des professionnels comme moi, qui avaient quand même une grosse expérience du cinéma, et Hossein aussi, Vadim et tous ces gens. Et on s'est mal marié, c'est-à-dire que finalement la nouvelle vague a pris ses quartiers, elle a décidé d'être la vague qui était, si vous voulez, qui était appuyée par les critiques et par un certain public, généralement un public d'étudiants d'ailleurs. Et puis on a, nous, continué à vivoter à côté. Et on a été souvent assimilés nous-mêmes à la nouvelle vague, mais enfin on n'en faisait pas partie, quoi. Et le temps a passé. Les gens de la nouvelle vague sont devenus vieux, ils sont morts. Truffaut est mort en 85, donc pratiquement 25 ans après son début.
Je crois n'avoir jamais fait des films pessimistes, par exemple. Même quand je traite un sujet dur, il y a toujours de l'espoir dedans, il y a toujours l'amour de la vie. Je suis anti-suicidaire, par exemple, et je n'aimerais pas montrer un film qui encouragerait les gens à se détruire.
Les autres, lui, mal est mort aussi.
Je crois que c'est vraiment une idée un peu grossière. C'est-à-dire l'idée que le travail du metteur en scène, c'est de faire que ces acteurs tombent amoureux l'un de l'autre et de les filmer faisant au cinéma ce qu'ils font dans la vie, c'est grossier. C'est le contraire de l'art, si vous voulez.
Chabrol qui est mort.
Dès le départ, je savais que c'est pas sur un film que je pouvais exprimer ce que je voulais, ce que je voulais dire. Donc c'est pour ça que je me suis décidé à en faire beaucoup, quoi. Quitte parfois à faire des choses qu'il aurait mieux valu ne pas faire. Mais enfin, ça m'est arrivé quand même 7 ou 8 fois.
Romère qui est mort.
Il y a le côté comment pragmatique des Américains, des films d'action, etc.
Mais il est certain que les Français réussissent mieux dans les films qui sont des films de psychologique, de... Enfin, je veux dire, la fiction, c'est la fiction, la réalité, la réalité. Je veux dire que moi, j'ai pas du tout envie, très franchement, de traiter quelque chose qui se passe maintenant. Ce qui se passe maintenant, ça se passe, je vois.
Mais ils sont pas vraiment morts, parce qu'ils étaient déjà, j'allais dire, ils étaient déjà morts avant de mourir, parce que à ce moment-là est née une nouvelle, encore, depuis 80 jusqu'à aujourd'hui, une nouvelle catégorie de réalisateurs qui ont été surtout, et ça a été vraiment un mouvement assez important, c'est des acteurs qui se sont qui sont devenus réalisateurs. C'est-à-dire que les acteurs n'étant plus tenus, si vous voulez, par les règles qu'il y avait avant la nouvelle vague, c'est-à-dire qu'il n'était pas pensable que Gabin, Bourville fassent des films comme metteur en scène, il leur venait même pas à l'esprit, parce qu'il y avait des grands metteurs en scène, c'était pas la peine pour eux d'essayer de réaliser un film, donc ils se laissaient diriger par des grands. Et puis quand il n'y a plus de grands, que la nouvelle vague a commencé à capoter, ben les jeunes acteurs se sont dit pourquoi engager un connard pour faire un mise en scène, on va faire nous-mêmes. Alors il y a eu Gérard Jugnot, il y a eu Michel Blanc, Balasco, enfin alors toute cette série-là de gens qui ont commencé à se réaliser eux-mêmes. Maintenant il y a Gad Elmaleh, il y a eu même Depardieu qui est devenu metteur en scène après. Tout le monde est devenu metteur en scène. En fait, aujourd'hui, Guillaume Canet fait de la mise en scène. Plein de gens font de la mise en scène. Donc, Danny Boone, vous voyez, alors tous ces gens-là... Alors, excusez-moi. Oui ? Allô ?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Allô ?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Oui ?
C'est pas quoi.
Allô ? C'est toujours le problème du téléphone, je ne sais pas qu'est-ce qui m'appelle. Vous avez, disons, mondialement une vingtaine ou une trentaine de metteurs en scène qui sont de l'ancienne époque. Et voilà. Et aujourd'hui, voilà le cinéma français international. Il est donc géré par... Alors les acteurs aussi ont disparu. Bourville est mort, Gabin est mort, tout le monde, Girardot vient de mourir. Et finalement, les acteurs ne sont plus ce qu'ils étaient. C'est-à-dire des grands, des espèces de monstres sacrés, absolument exceptionnels par le talent et par le physique. On est confronté à des acteurs qui ne sont pas mauvais, mais qui n'ont pas tellement de charisme, comme si le public d'aujourd'hui ne recherchait pas forcément le charisme d'un acteur, mais plutôt son côté caméléon, si vous voulez, de se confondre avec le public. C'est-à-dire finalement, les acteurs ou les actrices ont tendance à ressembler au public. Alors qu'avant, si vous voulez, le public avait des idoles comme Marlon Brando, Brigitte Bardot, Garbo, Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, etc. C'est cette espèce de recherche du charisme de l'acteur a disparu.
T'as de beaux yeux, tu sais.
Embrassez-moi.
Et voilà, c'était Jean-Pierre Mocky, donc, hein, voilà, qui en a donné vraiment à tout le monde pour son grade, là, sur cette interview, réalisée donc par Vincent pour Ajo. C'est toujours Cinérama.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
C'est Alep de Geza Felstein qu'on peut entendre, un morceau présent sur la BO de Maryland, une BO minimaliste et planante très efficace qu'il a entièrement composée et qui participe beaucoup à l'ambiance singulière du film. Dans Maryland, donc, Vincent, soldat revenu d'Afghanistan, gagne sa vie en faisant la sécurité dans des soirées mondaines. Un riche homme d'affaires lui demande d'assurer la protection de sa femme, aussi belle que mystérieuse, pendant 48 heures. Mais Vincent souffre de syndrome post-traumatique, d'angoisse, d'hallucination. Est-il seulement paranoïaque ? Il lui semble qu'une menace pèse sur la propriété de Maryland. Parti pris scénaristique assez classique, on ne sait jamais si Vincent est victime de folie ou si le danger est réel. À moins que le danger ne vienne de lui-même. car le trouble s'installe entre le bodyguard et son employeuse dans un huis clos de plus en plus étouffant. Entre romance et paranoïa, cette relation trouble entre personnages troublés reste à la lisière des genres, donnant au film une tonalité assez inédite. On ne saura jamais vraiment ce qu'éprouvent les deux personnages, et ce, grâce à une mise en scène de l'ambiguïté et au jeu nuancé de la part des comédiens Diane Kruger et Matthias Schoenaerts. Matthias Schoenaerts qui s'est imprégné du rôle au point de ne dormir que 2 heures par nuit pendant le tournage et qui fait encore une fois preuve d'un jeu à la fois très physique et très intériorisé, bon, même s'il est quand même un peu redondant de le voir encore une fois dans ce genre de rôle assez taiseux qu'il fait quand même assez souvent. Une unité de lieu, donc, Maryland, la luxueuse propriété, une unité de temps, puisque tout se passe en un week-end. On est face à un film nerveux, sans fioritures, réalisé par une femme, comme quoi les hommes n'ont pas le monopole du polar brut. Bien moins classique que son précédent film, Séraphine, qui abordait lui aussi la thématique du désordre psychologique, mais sous un angle médical, Maryland laisse plus de place au mystère et surtout à l'action, puisque le film est aussi réussi dans ses scènes contemplatives que dans ses scènes de violence. Maryland, que je vous recommande donc, qui a très bien commencé cette semaine. Par ailleurs, je précise quand même, ce sont 3 films français qui sont en tête du box-office. Aucun film américain, ce qui est extrêmement rare en fait, ce qui ne se passe jamais. Et même 2 films faits par des femmes, donc voilà. Peut-être que le cinéma n'est pas tellement perdu. On finit cette émission avec toi Manu, c'est toujours Cinérama.
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
En 1956, Kubrick n'est pas le grand cinéaste culte que tous les cinéphiles respectables vénèrent avec une adoration parfois excessive, comme s'il s'agissait d'un demi-dieu. À l'époque, il n'a que 2 films à son actif, le méconnu Fear and Desire et Le baiser du tueur, petite série B efficace, très loin de la démesure et de l'ambition de ses films ultérieurs. Ultime Razzia est l'adaptation d'un roman de Lionel White, Clean Break, sorti en France dans la collection Série Noire sous le titre En mangeant de l'herbe. Le film adopte dès les premières images un ton sec et froid, une distanciation permettant de mieux saisir l'enjeu des rouages d'une intrigue parfaitement agencée. Une voix off, non pas intérieure, mais au diapason de celle d'un commentateur sportif, introduit le récit qui prend pour cadre les champs de course. Johnny Clay, fraîchement sorti de prison, organise le casse parfait pour s'emparer du butin d'un champ de course. Le butin est estimé environ à 2 millions de dollars. Chaque complice accomplit une mission précise et parfois sans lien apparent avec le hold-up pour la réussite parfaite d'un plan machiavélique, pensé comme une partie d'échec. Chaque personnage est un pion intervenant à un moment précis sans pour autant avoir une vue d'ensemble. Mais ce que n'avait pas prévu Johnny, c'est bien le facteur humain. Les hommes restent des hommes, les femmes aussi d'ailleurs. L'être humain n'est pas une machine et il suffit au milieu d'une mécanique parfaitement huilée, du petit grain de sable pour tout faire foirer. Soit un des complices, un employé qui a le tort d'être amoureux, transi d'une garce qui le méprise. Pour cette raison, il va tout faire foirer et l'ultime razzia promise dans le titre aura bien lieu. Alors 12 ans avant 2001, Kubrick anticipe un de ses thèmes fétiches, le dérèglement de la machine dû à l'erreur humaine. Dans un monde régi par les lois de la nature, la perfection n'existe pas. Une émotion de trop, et paf, cela peut être la catastrophe. Kubrick se garde bien de juger, ce qui va détraquer l'admirable plan imaginé par le personnage principal. Cette absence de moralisme, mais aussi d'empathie, est symptomatique des qualités, mais aussi des limites d'un remarquable film noir à la mécanique un peu trop bien huilée, mais volontairement dénuée d'émotion. Alors, aborder la question de la faiblesse des hommes en les observant de haut, tel un entomologiste, n'est pas nouveau chez Kubrick. Mais dans le cadre du film noir, ce dispositif devient problématique. La noirceur jusqu'au boutiste n'est pas gênante, bien au contraire, mais on aurait aimé s'attacher aux personnages, souffrir un peu, vivre et mourir avec eux, enfin, le temps d'un film, et surtout souhaiter qu'ils réussissent à s'en sortir, même si l'issue est fatale. Alors, la construction alambiquée du récit, en adoptant les différents points de vue des personnages, en bousculant l'ordre chronologique et en insérant toute une série de flashbacks, induit une modernité peu courante dans les années 50 et anticipe près de 40 ans avant la forme adoptée par Tarantino dans Reservoir Dogs, fortement inspiré d'ailleurs du classique de Kubrick. Ultime Razzia épouse alors une forme complexe au sein d'un dispositif à la précision indéniable, mais il manque justement ce que je disais plus haut, ce grain de sable, ce dérèglement quasi transgressif qui culmine dans les grands classiques du film noir. La maîtrise des mouvements de caméra, notamment lors de l'introduction, la perfection des cadrages et la photo éblouissante de Lucien Ballard ne sont pas les moindres qualités de cet exercice de style qui frôle le sans-faute jusqu'à son dénouement d'une ironie mordante. C'est le cas de le dire, un pauvre petit chien peut aussi tout foutre en l'air. Mais à 26 ans, malgré les réserves émises, Kubrick est déjà un immense metteur en scène au talent foudroyant, même si ce talent est pour l'instant au service d'un polar virtuose auquel il manque peut-être un supplément d'âme. Le film est disponible en DVD assez facilement chez MGM.
Merci Manu, et bien ça y est, c'est la fin de cette émission.
C'est l'or, il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon moi je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks.
ça devrait pas trop durer.
La semaine prochaine, on vous parle de Sicario, le nouveau film de Denis Villeneuve. Et toi, Manu ?
J'irai voir The Visit, le nouveau film de Shyamalan.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint, il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.